Libre-échange.
Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Aswat dans le cadre Libre-échange. Cette semaine, mon invité est un dirigeant d'entreprise, ou plutôt une dirigeante d'entreprise. Merci beaucoup, Madame Selwa Khalqareb Al-Qaziz, présidente directeur général de GFI Maroc, d'avoir accepté l'invitation.
Merci pour cette invitation. En fait,
ce qui nous a amené à vous inviter, c'est que votre entreprise se développe au Maroc, mais aussi à l'échelle internationale, avec des implantations sur d'autres pays africains. Et pour mieux comprendre votre stratégie africaine, on va commencer par vous demander de nous dire quelle est l'activité de GFI Maroc.
Merci. GFI Maroc est une filiale du groupe GFI Informatique, dont le siège est basé à Paris. C'est ce qu'on appelle une ESN, c'est-à-dire entreprise de systèmes numériques, avec 14 000 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes présents dans 16 pays. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Nous avons 16 centres de services qu'on appelle des centres offshoring dans plusieurs pays, dont le Maroc, à Casablanca, depuis 2007. D'ailleurs, nous étions parmi les premières entreprises à avoir cru à l'activité offshoring. Au niveau de nos métiers, nous sommes éditeurs de quelques solutions, comme des solutions qui s'adressent aux assurances, des solutions qui s'adressent aux collectivités locales, mais nous sommes également intégrateurs de ce qu'on appelle les ERP, les logiciels standards, avec comme partenaires donc les grands éditeurs comme SAP, Oracle, Sage et Microsoft. Alors au Maroc, GFI Maroc a rejoint le groupe en 2000, donc par acquisition externe, comme pas mal d'autres sociétés du groupe. Notre stratégie, c'est toujours du développement de la croissance interne et également externe. Et d'où justement une croissance au niveau de l'Afrique.
Alors quels sont les pays où vous êtes présent en Afrique ?
Alors en Afrique, ça a commencé déjà, c'est le Maroc qui a été, je dirais, l'acteur de développement et le hub pour les pays d'Afrique. Donc nous avons, au départ, l'histoire a commencé par, nous avons accompagné quelques grands groupes comme le groupe CFAO, pour ne pas le nommer, dans des pays d'Afrique. Donc, et puis par la suite, nous avons commencé à accompagner des groupes marocains. C'est quelque chose qui est important. Comme les groupes comme Nexans, comme la Palmerie, etc. Ce sont des groupes qui s'implantent dans ces pays d'Afrique et qui ont besoin d'intégrateurs, de sociétés de services informatiques pour les accompagner. Donc nous travaillons sur à peu près une dizaine de pays. Nous avons des clients au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, et sur lesquels on opère à partir de Casablanca.
Vos clients sont en général des entreprises, des grands groupes ou des administrations ?
Il y a un peu de tout, surtout des grands groupes industriels, des opérateurs de télécom, donc les opérateurs de télécom, des grandes assurances également. Donc c'est un peu diversifié, les grandes industrielles. Et justement, ça a commencé comme ça. Et puis par la suite, il y a eu donc toute la dynamique marocaine pour la stratégie donc, sud-sud, qui est conforme à la politique de Sa Majesté. Et puis il y a eu quand même un soutien des organismes publics comme Maroc Export à l'époque, qui avait entamé ce qu'on appelait à l'époque la caravane export. Et là, nous les avons accompagnés. Nous étions parmi les entreprises qui ont bénéficié de cette caravane export, et donc pour multiplier justement nos clients dans ces pays. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait assurer de la proximité, puisque la stratégie du groupe, c'est Think Global et Act Local. Donc, il fallait de la proximité pour assurer un meilleur service après-vente, une meilleure intégration. Et c'est là que nous avons commencé notre première acquisition, qui s'est faite donc en Côte d'Ivoire. C'est une acquisition d'une entreprise dans le secteur. Ça s'est fait en 2015.
D'accord, donc c'est relativement récent. Est-ce que le fait d'acquérir une entreprise en Côte d'Ivoire vous a permis d'approcher de manière plus performante, plus efficace, le marché de l'Afrique de l'Ouest, par exemple?
Tout à fait. Et on travaille en équipe mixte, parce que vous savez, notre métier, il repose sur des compétences humaines. Et donc, nous avons des équipes à partir de Casablanca qui se déplacent, mais qui ont formé des équipes ivoiriennes sur place pour pouvoir assurer au moins ce qu'on appelle la maintenance premier niveau par rapport à ces clients qui sont dans la région.
Selwa Khalqareb Al-Qaziz, je rappelle que vous êtes le président directeur général de GFI Maroc. Vous êtes avec nous sur Aswat dans le cadre de libre-échange. Vous nous expliquez votre implantation en Afrique avec le rachat en 2015 d'une structure en Côte d'Ivoire, mais l'actualité aujourd'hui, c'est une nouvelle opération qui a été menée en Tunisie.
Tout à fait. Ce n'est qu'il y a quelques semaines que nous avons donc pensé à la Tunisie. la Tunisie, où justement on avait déjà un projet qui est important toujours dans l'industrie, donc au niveau de la Tunisie. Et c'est pareil, il fallait également avoir une équipe sur place. La Tunisie offre un avantage très très important, c'est le coût de la main d'œuvre. Là-bas, je dirais un ingénieur informaticien, avec la dévaluation de dinars, les salaires ils sont autour de 1500 dinars.
Oui, ça veut dire quoi?
Ça fait à peu près 500 euros, 500, c'est 5000 dirhams, donc c'est vraiment très très peu, c'est très très compétitif. Et donc,
et quel est l'intérêt? C'est le marché tunisien lui-même ou c'est les compétences tunisiennes que vous allez chercher?
Je dirais que c'est plus les compétences tunisiennes. D'ailleurs, l'acquisition de l'entreprise que nous avons faite, donc c'est une entreprise quand même qui a 140 personnes, 140 ingénieurs informaticiens, qui sont plus dans le développement en forfait, qui sont dans l'assistance technique. Et en Tunisie, on forme, paradoxalement, on forme beaucoup plus d'informaticiens qu'au Maroc, en Tunisie. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a également une mobilité accrue, un départ vers l'Europe, que ce soit à partir du Maroc ou à partir de Tunisie. Les Tunisiens, ils sont beaucoup plus touchés que les Marocains, mais ça empêche que comme ils forment beaucoup plus et que le marché il est plus petit, donc ils n'ont pas de problème, je dirais, pour trouver des compétences et pour recruter. Puis à partir de la Tunisie, on peut travailler facilement sur des marchés également en Algérie. Donc il y a également des appels d'offres algériens et on peut travailler à partir de la Tunisie.
Ce sont des marchés que les Tunisiens arrivent à traiter, que nous, Marocains, nous n'arrivons pas.
Donc c'est un moyen, également de travailler sur l'Algérie, qui est un grand marché.
Le marché tunisien en lui-même, est-ce que c'est un marché dans lequel la dynamique se fait par le privé ou plutôt par l'État et l'administration?
Vous savez, la Tunisie est passée quand même par une période qui est assez difficile, mais là, ils sont très, très dynamiques au niveau de tout ce qui est IT, tout ce qui est digital. Ils ont même pris de l'avance par rapport à quelques contraintes réglementaires comme la protection des données personnelles ou autres, un Smart Act pour les startups. Donc il y a un certain environnement, on sent une dynamique au niveau de la Tunisie et puis bien sûr il y a le secteur privé qui est vraiment demandeur du digital pour pouvoir être compétitif.
Vous évoquez il y a un instant la qualité des ressources humaines, le fait que, selon votre perception, je dis bien perception parce que je voudrais vous interroger là-dessus, en Tunisie, on forme plus d'ingénieurs dans les technologies qu'au Maroc. Est-ce que je vous repose la question? Est-ce que c'est une perception, c'est une réalité?
C'est sur la base de chiffres
que vous dites ça?
Non, c'est une réalité. On a fait la visite il y a pas longtemps. On a eu des réunions. On a même visité des écoles. Mm-hmm. Non, ils ferment beaucoup plus en quantité. En quantité, bien sûr, même en qualité. Mais ils en perdent beaucoup, hein, apparemment.
Qui partent en Europe?
Oui, d'après ce qu'on a eu comme information, sur les 3 dernières années, ils sont exactement 94 000 informaticiens qui ont quitté la Tunisie pour aller en Europe.
Il y a 7-8 ans, ou dizaines d'années peut-être, au moment où la crise financière mondiale arrivait, beaucoup d'entreprises européennes et françaises en particulier venaient faire leur marché et récupérer les talents marocains dans toutes les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, est-ce que le phénomène de la demande de l'Europe en compétences dans nos pays est reparti?
Oui, tout à fait. Elle est repartie parce que, en fait, vous prenez rien que la France, par exemple, il y a tout un plan pour digitaliser. Et donc, le président Macron a mis un budget très important. Ils ont facilité les visas talents pour les informaticiens. Mmh. Et ici, au Maroc, on vit à peu près il y a un départ d'à peu près une cinquantaine par mois.
D'ingénieurs qui partent
tout
en Europe,
fait, exactement.
En France en particulier.
En France en particulier, oui, tout à fait.
Alors ça m'amène à discuter avec vous du cap de la digitalisation. Vous évoquez ce qu'est fait la stratégie de l'État en France. Quel est l'état de la stratégie chez nous au Maroc sur la digitalisation? Est-ce qu'on a le sentiment que l'écart se creuse avec ce qui se passe dans le monde ou est-ce qu'on est au bon rythme?
On n'est pas vraiment au bon rythme. Moi, je dis toujours que l'avion, il a démarré, mais il est encore sur la piste.
Il est encore sur la piste, il n'a pas décollé.
Il n'a pas encore décollé, tout à fait.
Je voudrais rappeler à nos auditeurs, auditrices et auditeurs que vous êtes présidente directeur général de GFI Maroc, mais vous êtes par ailleurs la présidente de la PEBI, qui est donc la Fédération nationale des entreprises de technologie de l'information. Il est prévu, annoncé même, une agence du numérique qui va accompagner la digitalisation. Et on le sait, dans une économie comme l'économie marocaine, c'est d'abord l'administration, l'État, qui est le premier à agir. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous observez avec vos doubles casquettes deux patrons d'une entreprise dans le secteur, mais aussi du président de la PBI, un nombre d'appels d'offres importants? Est-ce qu'il y a il y a de l'appétit de la part de l'administration marocaine?
Honnêtement, cette année, oui. Après deux ans, 2016-2017, qui était vraiment très, très difficile pour notre secteur, 2018, nous avons commencé, à partir du mois de mars déjà, à avoir des appels d'offres au niveau des administrations donc sortir. Ça veut dire qu'il y a une conscience, il y a une dynamique qui est là, qui est importante. Tous les secteurs, d'ailleurs, tous les secteurs qui font leur forum cette année, nous, en tant qu'APB, on les accompagne tous. Dans le forum, il y a toujours la partie digitale. Il n'y a pas longtemps, c'était les assurances, l'AGEF à Marrakech. Ce matin même, le bâtiment et le digital, la fibre optique. Donc nous, en tant qu'APB, on se doit justement d'accompagner l'ensemble des secteurs pour leur offrir des solutions de la transformation digitale. Vendredi prochain, il y a le forum sur l'industrie. Donc nous avons des membres qui vont venir proposer des solutions au niveau de l'industrie 4.0. Maintenant, tout ça, je dirais, c'est comme un orchestre, tout ça, il faut le mettre en harmonie. Et c'est le rôle de l'agence qui, effectivement, a tenu son premier conseil d'administration en décembre l'année dernière. Nous avons nous-mêmes reçu le ministre lors de renouvellement de notre mandat en janvier, parce qu'on nous a renouvelé la confiance et notre mandat, qui nous a présenté les 14 chantiers. Mais l'agence est encore en train de s'installer.
Oui.
Il n'y a pas encore eu de nomination du directeur général.
Qu'est-ce que vous attendez? Donc ça veut dire qu'elle n'est pas opérationnelle. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette agence en tant que professionnel? Vous, par exemple, dans votre entreprise, vous attenderiez quoi de la part de cette agence?
Nous, on attend tout simplement qu'elle mette en œuvre l'ensemble des chantiers, à commencer par l'interopérabilité, par exemple, au niveau de toutes les administrations, pour pouvoir lancer des projets importants d'envergure qui vont permettre aux citoyens, à travers un seul portail, d'accomplir toutes ces formalités administratives. On attend au niveau de télécom, on attend au niveau de la protection des données personnelles. Vous savez qu'au mois de mai, donc, la réglementation européenne va être en vigueur et notre loi, on ne l'a pas encore changée. Donc, c'est aussi le rôle de l'agence. On attend un accompagnement des startups. Nous avons intégré avec nous, au niveau de la PIB, les startups. Il leur faut un cadre réglementaire, un cadre pour le financement, un cadre pour l'accompagnement. Donc, je dirais les chantiers sont très, très importants au niveau de l'agence. Et dès qu'elle est opérationnelle, nous, on s'est aussi structuré en tant que fédération pour accompagner l'agence.
Ces retards pris peuvent coûter cher au Maroc sur la scène internationale?
Oui, on a de retard un peu partout. Nous avons organisé la PBI la semaine dernière, la deuxième édition du forum Mobile Payments. Je prends juste cet exemple au niveau de Mobile Payments. C'est quelque chose qui démarre au Maroc cette semaine, donc avec les premières banques qui ont eu les autorisations. Eh bien, ça coûte, d'après la Banque du Maroc, le fait d'utiliser le cash à 80%, ça coûte 7 milliards de dirhams pour le Maroc. Donc, tout retard dans chaque pan de digitalisation coûte de l'argent au Maroc. Donc, c'est quelque chose qui est important et c'est reconnu par des institutions légitimes comme la Banque du Maroc.
Merci beaucoup, Seloua Karqib Al-Qazi. Je rappelle que vous êtes président directeur général de GFI Maroc. Une toute dernière question avant de passer à mon flop et à mon top comme chaque semaine. Je vous ai reçu il y a quelques mois pour parler de l'ITEX, qui est donc, j'ai envie de dire, le grand rassemblement des acteurs des technologies. Vous avez déjà la date pour 2018?
Oui, tout à fait. Nous avons tenu à garder le rythme annuel pour justement faire le point et le benchmark tous les ans. Donc la date, c'est le 4 et 5 octobre.
Qu'est-ce qu'on aura comme thème cette année, 4-5 octobre? Ça se déroule à Casablanca?
Non, cette fois, ça se déroule à Rabat. On va aller vers les administrations. S'ils ne veulent pas venir à Casa, on va aller vers eux.
Voilà, vers les administrations.
À l'hôtel Sofitel à Rabat, tout à fait. Et c'est le digital pour un développement durable de l'Afrique.
En général, il y a dans votre grande manifestation ITEX, A-I-T-E-X, pour nos auditrices et nos auditeurs, vous avez toujours un pays africain invité.
Deux même.
Deux. Alors tous l'année prochaine, cette année 2018.
Alors ça vient d'être décidé. Donc ça sera le Gabon comme pays francophone et le Rwanda comme pays anglophone.
Voilà, le Rwanda qui est même bilingue, où on peut trouver quelques francophones.
Et qui sont très en avance dans le digital.
Absolument. Et qui osent faire des choses. Petit Singapour, comme je dis souvent en parlant du Rwanda en Afrique. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation. On va conclure cette émission. Évidemment, vous pourrez réagir si les sujets vous intéressent par un flop et un top. Le flop, c'est l'étude qui est faite par Euler Hermès et qui a publié son étude annuelle sur le délai moyen de paiement des clients dans le monde et qui place le Maroc en mauvais élève avec 83 jours. C'est le délai moyen de paiement des clients au Maroc. On a bien dit 83 jours, mais délai moyen de paiement des clients au Maroc en 2017. Il faut dire qu'il faut comparer le 83 jours moyen par rapport à la moyenne mondiale qui est de 66 jours. Les secteurs qui affichent les délais de paiement les plus élevés et qui peuvent avoir une sorte de bonnet d'âne, c'est le secteur de la technologie, 140 jours, les transports, 114 jours, l'industrie pharmaceutique, 95 jours, le bâtiment de travaux publics, 85 jours, et les services aux collectivités, 79 jours. Il faut dire qu'il y a des secteurs qui sont meilleurs que la moyenne mondiale. Les délais les plus courts dans notre pays concernent la distribution à 43 jours, le pétrole à 46 jours et l'alimentaire à 62 jours en été, que à l'échelle mondiale et après 5 années de stabilité à 64 jours en moyenne, le délai moyen de paiement des clients a atteint un record en 2017 puisque en 10 ans, c'est la première fois où il passe à 66 jours. Et comme je n'aime pas finir par les flops, je préfère finir par des tops, c'est plus agréable. Je voudrais revenir à la note qui a été partagée par le HCP il y a quelques jours et qui nous renseigne sur l'emploi. C'est une note qui a été rendue publique concernant la situation du marché du travail au premier trimestre 2018. Ce qu'on peut relever, évidemment, quelques grands chiffres. 116 000 postes d'emploi nets ont été créés par l'économie marocaine entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. 77 000 emplois en milieu urbain, 39 000 en milieu rural, contre donc 109 000 il y a un an. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que le volume global de l'emploi est ainsi passé de 10 766 000 personnes qui sont considérées en activité à 10 882 000. C'est une très bonne nouvelle. Quels sont les secteurs qui ont été les plus dynamiques dans cette création d'emplois, dans cette opération de création d'emplois? On peut citer les services avec 50 000 emplois, l'agriculture, forêt et pêche à 43 000 emplois et le secteur du BTP. Pour 32 000 emplois. Et n'oublions pas, pour conclure, qu'on dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Ben, j'espère que ça ira encore mieux ainsi. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est sur Aswat. À la semaine prochaine.